En se plaçant à ce point de vue pour juger nos petites règles conventionnelles, pour débrouiller tous ces labyrinthes scolastiques, pour résoudre tous ces problèmes mesquins que les critiques des deux derniers siècles ont laborieusement bâtis autour de l'art, on est frappé de la promptitude avec laquelle la question du théâtre moderne se nettoie. Le drame n'a qu'à faire un pas pour briser tous ces fils d'araignée dont les milices de Lilliput ont cru l'enchaîner dans son sommeil. Ainsi que des pédants étourdis, l'un n'exclut pas l'autre, prétendent que le difforme, le laid, le grotesque ne doit jamais être un objet d'imitation pour l'art, on leur répond que le grotesque, c'est la comédie et qu'apparemment la comédie fait partie de l'art. Tartuffe n'est pas beau, Pourceaugnac n'est pas noble, et Pourceaugnac et Tartuffe sont d'admirables jets de l'art. Que si, chassés de ce retranchement dans leur seconde ligne de douane, ils renouvellent leur prohibition du grotesque allié au sublime, de la comédie fondue dans la tragédie, on leur fait voir que dans la poésie des peuples chrétiens, le premier de ces deux types représente la bête humaine, le second l'âme. Ces deux tiges de l'art, si l'on empêche leurs rameaux de se mêler, si on les sépare systématiquement, produiront pour tout fruit, d'une part des abstractions de vice, de ridicule, et de l'autre des abstractions de crime, d'héroïsme et de vertu. Les deux types, ainsi isolés et livrés à eux-mêmes, s'en iront chacun de leur côté, laissant entre eux le réel, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. D'où il suit qu'après ces abstractions, il restera quelque chose à représenter, l'homme. Après ces tragédies et ces comédies, quelque chose à faire, le drame. Dans le drame, tel qu'on peut, sinon l'exécuter, du moins le concevoir, tout s'enchaîne et se déduit, ainsi que dans la réalité. Le corps y joue son rôle comme l'âme. Et les hommes et les événements, mis en jeu par ce double agent, passent tour à tour aux bouffons et terribles, quelquefois terribles et bouffons, tout ensemble. Ainsi le juge dira « À la mort et allons dîner !» Ainsi le Sénat romain délibérera sur le turbo de Domitien. Ainsi Socrate, buvant la ciguë et conversant de l'âme immortelle et du Dieu unique, s'interrompra pour recommander qu'on sacrifie un coq à Esculape. Ainsi Élisabeth jurera et parlera latin. Ainsi Richelieu subira le capucin Joseph et Louis XI son barbier, Maître Olivier le diable. Ainsi Cromwell dira « J'ai le Parlement dans mon sac et le roi dans ma poche » ou de la main qui signe l'arrêt de mort de Charles Ier barbouillera d'encre le visage d'un régicide qui le lui rendra en riant. Ainsi César, dans le char de triomphe, aura peur de verser. Car les hommes de génie, si grands qu'ils soient, ont toujours en eux leur bête qui parodie leur intelligence. C'est par là qu'ils touchent à l'humanité, c'est par là qu'ils sont dramatiques. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, disait Napoléon, quand il fut convaincu d'être homme. Et cet éclair d'une âme de feu qui s'en trouve illumine à la fois l'art et l'histoire. Ce cri d'angoisse est le résumé du drame et de la vie. Chose frappante, tous ces contrastes se rencontrent dans les poètes eux-mêmes, pris comme hommes. À force de méditer sur l'existence, d'en faire éclater la poignante ironie, de jeter à flot le sarcasme et la raillerie sur nos infirmités, ces hommes qui nous font tant rire deviennent profondément tristes. Ces Démocrites sont aussi des Héraclites. Beaumarchais était morose. Molière était sombre, Shakespeare mélancolique. C'est donc une des suprêmes beautés du drame que le grotesque. Il n'en est pas seulement une convenance, il en est souvent une nécessité. Quelquefois, il arrive par masse homogène, par caractère complet, Dandin, Prusias, Trissotin, Bridoison, la nourrice de Juliette. Quelquefois emprunt de terreur, Ainsi Richard III, Tartuffe, Méphistophélès. Quelquefois même, voilés de grâce et d'élégance, comme Figaro, Osric, Mercutio, Don Juan. Ils s'infiltrent partout, car de même que les vulgaires ont maintes fois leur accès de sublime, les plus élevés paient fréquemment tribut au trivial et au ridicule. Aussi, souvent insaisissable, souvent imperceptible, est-il toujours présent sur la scène, même quand il se tait, même quand il se cache. Grâce à lui, point d'impression monotone. Tantôt il jette du rire, tantôt de l'horreur dans la tragédie. Il fera rencontrer l'apothicaire à Roméo, les trois sorcières à Macbeth, les fossoyeurs à Hamlet. Parfois enfin, il peut sans discordance, comme dans la scène du roi Lear et de son fou, mêler sa voix criarde aux plus sublimes, aux plus lugubres et aux plus rêveuses musiques de l'âme. Voilà ce qu'a su faire entre tous d'une manière qui lui est propre et qu'il serait aussi inutile qu'impossible d'imiter Shakespeare, ce dieu du théâtre, en qui semble réuni comme dans une trinité les trois grands génies caractéristiques de notre scène, Corneille, Molière et Beaumarchais. On voit combien l'arbitraire distinction des genres croule vite devant la raison et le goût. On ne ruinerait pas moins aisément la prétendue règle des deux unités. Nous disons deux et non trois unités, l'unité d'action ou d'ensemble, la seule vraie et fondée étant depuis longtemps hors de cause. Des contemporains distingués, étrangers et nationaux, ont déjà attaqué, et par la pratique et par la théorie, cette loi fondamentale du code pseudo-aristotélique. Au reste, le combat ne devrait pas être long. À la première secousse, elle a craqué, tant était vermoulue cette solive de la vieille masure scolastique. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que les routiniers prétendent appuyer leur règle des deux unités sur la vraisemblance, tandis que c'est précisément le réel qui la tue. Quoi de plus invraisemblable et de plus absurde, en effet, que ce vestibule, ce péristyle, cette antichambre, lieu banal où nos tragédies ont la complaisance de venir se dérouler, où arrivent, on ne sait comment, les conspirateurs pour déclamer contre le tyran pour déclamer contre les conspirateurs, chacun à leur tour, comme s'ils s'étaient dit bucoliquement « alternis cantebus, amant alterna caminae ». Où a-t-on vu vestibule ou péristyle de cette sorte? Quoi de plus contraire, nous ne dirons pas à la vérité, les scolastiques en font bon marché, mais à la vraisemblance. Il résulte de là que tout ce qui est trop caractéristique, trop intime, trop local, pour se passer dans l'antichambre ou dans le carrefour, c'est-à-dire tout le drame, se passe dans la coulisse. Nous ne voyons en quelque sorte sur le théâtre que les coudes de l'action. Ses mains sont ailleurs. Au lieu de scènes, nous avons des récits. Au lieu de tableaux, des descriptions. De graves personnages, placés comme le cœur antique, entre le drame et nous, viennent nous raconter ce qui se fait dans le temple, dans le palais, dans la place publique, de façon que, souvent de fois, nous sommes tentés de leur crier « Vraiment, mais allez, reconduisez-nous donc là-bas, on doit bien s'y amuser, cela doit être beau à voir ». À quoi il répondrait sans doute « Il serait possible que cela vous amusât, vous intéressât, mais ce n'est point là la question. Nous sommes les gardiens de la dignité de la mélpomène française. » Voilà. Mais, dira-t-on, cette règle que vous répudiez est empruntée au théâtre grec. Mais en quoi le théâtre et le drame grec ressemblent-ils à notre drame et à notre théâtre? D'ailleurs, nous avons déjà fait voir que la prodigieuse étendue de la scène antique lui permettait d'embrasser une localité tout entière, de sorte que le poète pouvait, selon les besoins de l'action, la transporter à son gré d'un point du théâtre à un autre, ce qui équivaut bien à peu près au changement de décoration. Bizarre contradiction. Le théâtre grec, tout asservi qu'il était à un but national et religieux, est bien autrement libre que le nôtre, dont le seul objet cependant est le plaisir et, si l'on veut, l'enseignement du spectateur. C'est que l'un obéit aux lois qui lui sont propres, tandis que l'autre s'applique des conditions d'être parfaitement étrangère à son essence. L'un est artiste et l'autre est artificiel. On commence à comprendre de nos jours que la localité exacte est un des premiers éléments de la réalité. Les personnages parlants ou agissants ne sont pas les seuls qui gravent dans l'esprit du spectateur la fidèle empreinte des faits. Le lieu où telle catastrophe s'est passée en devient un témoin terrible et inséparable. Et l'absence de cette sorte de personnage muet décompléterait dans le drame les plus grandes scènes de l'histoire. Le poète oserait-il assassiner Rizzio ailleurs que dans la chambre de Marie-Histoire, poignarder Henri IV ailleurs que dans cette rue de la Ferronnerie, tout obstruée de haquets de voitures, brûler Jeanne d'Arc autre part que dans le vieux marché, dépêcher le duc de Guise autre part que dans ce château de Blois où son ambition fait fermenter une assemblée populaire, décapiter Charles Ier et Louis XVI ailleurs que dans ces places sinistres d'où l'on peut voir Whitehall et les Tuileries, comme si leur échafaud servait de pendant à leur palais. Et l'unité de temps n'est pas plus solide que l'unité de lieu. L'action encadrée de force dans les 24 heures est aussi ridicule qu'encadrée dans le vestibule. Toute action a sa durée propre comme son lieu particulier. Verser la même dose de temps à tous les événements, appliquer la même mesure sur tout, on rirait d'un cordonnier qui voudrait mettre le même soulier à tous les pieds. Croiser l'unité de temps à l'unité de lieu, comme les barreaux d'une cage, et y faire pédantesquement entrer, de par Aristote, tous ces faits, tous ces peuples, toutes ces figures que la Providence déroule à si grande masse dans la réalité. Mais c'est mutiler hommes et choses, c'est faire grimacer l'histoire. Disons mieux, tout cela mourra dans l'opération. Et c'est ainsi que les mutilateurs dogmatiques arrivent à leur résultat ordinaire. Ce qui était vivant dans la chronique est mort dans la tragédie. Voilà pourquoi, bien souvent, la cage des unités ne renferme qu'un squelette. Et puis, si 24 heures peuvent être comprises dans deux, il sera logique que 4 heures puissent en contenir 48. L'unité de Shakespeare ne sera donc pas l'unité de Corneille. Oh, pitié! Ce sont là pourtant les pauvres chicanes que depuis 2 siècles la médiocrité, l'envie et la routine font au génie. C'est ainsi qu'on a borné l'essor de nos plus grands poètes. C'est avec les ciseaux des unités qu'on leur a coupé l'aile. Et que nous a-t-il ordonné en échange de ces plumes d'aigle retranchées à Corneille et à Racine? Qu'en piston? Nous convenons qu'on pourrait dire « Oh, il y a dans des changements trop fréquents de décoration quelque chose qui embrouille et fatigue le spectateur et qui produit sur son attention l'effet de l'éblouissement. Il peut aussi se faire que des translations multipliées d'un lieu à un autre lieu, d'un temps à un autre temps, exigent des contre-expositions qui le refroidissent. Il faut craindre encore de laisser dans le milieu d'une action des lacunes qui empêchent les parties du drame d'adhérer étroitement entre elles et qui en outre déconcertent le spectateur parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il peut y avoir dans ces vides. Mais ce sont là précisément les difficultés de l'art. Ce sont là de ces obstacles propres à tel ou tel sujet et sur lesquels on ne saurait statuer une fois pour toutes. C'est au génie à les résoudre et non au poétique et à les élucider. Il suffirait enfin, pour démontrer l'absurdité de la règle des deux unités, d'une dernière raison prise dans les entrailles de l'art. C'est l'existence de la troisième unité, l'unité d'action, la seule admise de tous, parce qu'elle résulte d'un fait. L'œil ni l'esprit humain ne sauraient saisir plus d'un ensemble à la fois. Celle-là est aussi nécessaire que les deux autres sont inutiles. C'est elle qui marque le point de vue du drame. Or, par cela même, elle exclut les deux autres. Il ne peut pas plus y avoir trois unités dans le drame que trois horizons dans un tableau. Du reste, gardons-nous de confondre l'unité avec la simplicité d'action. L'unité d'ensemble ne répudie en aucune façon les actions secondaires sur lesquelles doit s'appuyer l'action principale. Il faut seulement que ces parties, savamment subordonnées au tout, gravitent sans cesse vers l'action centrale et se groupent autour d'elle aux différents étages, ou plutôt sur les divers plans du drame. L'unité d'ensemble est la loi de perspective du théâtre. Mais, s'écrieront les douaniers de la pensée, de grands génies les ont pourtant subi, ces règles que vous rejetez. Eh oui, qu'auraient-ils donc fait, ces admirables hommes, si on les eût laissés faire? Ils n'ont pas, du moins, accepté vos fers sans combat. Il faut voir comme Pierre Corneille, harcelé à son début pour sa merveille du Cid, se débat sous Méret, Claveret, Daubignac et Scudéry, comme il dénonce à la postérité les violences de ces hommes qui, dit-il, se font tout blancs d'Aristote. Il faut voir comme on lui dit, et nous citons des textes du temps. « Jeune homme, il faut apprendre avant que d'enseigner, et à moins que d'être un Scaligère ou un Ainsius, ce n'est pas supportable. » Là-dessus, Corneille se révolte et demande si c'est donc qu'on veut le faire descendre beaucoup au-dessous de Claveret. Ici, Scudéry s'indigne de tant d'orgueil et rappelle à ce trois fois grand auteur du Cid les modestes paroles par où le Tasse, le plus grand homme de son siècle, a commencé l'apologie du plus beau de ses ouvrages comme la plus aigre et la plus injuste censure qu'on fera peut-être jamais. Monsieur Corneille, ajoute-t-il, témoigne bien en ses réponses qu'il est aussi loin de la modération que du mérite de cet excellent auteur. Le jeune homme, si justement et si doucement censuré, ose résister. Alors, Scudéry revient à la charge. Il appelle à son secours l'Académie éminente. Prononcez, ô mes juges, un arrêt digne de vous, et qui fasse savoir à toute l'Europe que le Cid n'est point le chef-d'œuvre du plus grand homme de France, mais oui, bien la moins judicieuse pièce de M. Corneille même. Vous le devez, et pour votre gloire en particulier, et pour celle de notre nation générale qui s'y trouve intéressée, vu que les étrangers qui pourraient voir ce beau chef-d'œuvre, qui ont lu des Tasses et des Guarini, croiraient que nos plus grands maîtres ne sont que des apprentifs. Il y a, dans ce peu de lignes instructives, toute la tactique éternelle de la routine envieuse contre le talent naissant, celle qui se suit encore de nos jours et qui a attaché, par exemple, une si curieuse page aux jeunes essais de Lord Byron. Scudéry nous la donne en quintessence. Ainsi, les précédents ouvrages d'un homme de génie toujours préférés aux nouveaux, afin de prouver qu'il descend au lieu de monter, Mélite et la galerie du palais, mis au-dessus du Cid, puis les noms de ceux qui sont morts, toujours jetés à la tête de ceux qui vivent, Corneille lapidé avec Tasso et Guarini, Guarini, comme plus tard on lapidera Racine avec Corneille, Voltaire avec Racine, comme on lapide aujourd'hui tout ce qui s'élève avec Corneille, Racine et Voltaire. La tactique, comme on voit, est usée, mais il faut qu'elle soit bonne puisqu'elle sert toujours. Cependant, le pauvre diable de grand homme soufflait encore. C'est ici qu'il faut admirer comme Scudéry, le capitaine de cette tragicomédie, poussé à bout le rudois et le malmène, comme il démasque sans pitié son artillerie classique, comme il fait voir à l'auteur du Cid Quels doivent être les épisodes, d'après Aristote, qu'il enseigne au chapitre 10e et 16e de sa poétique? Comme il foudroie Corneille, de par ce même Aristote, au chapitre 11e de son art poétique, dans lequel on voit la condamnation du Cid, de par Platon, livre 10e de sa République, de par Marcellin, au livre 27e, on le peut voir, de par les tragédies de Niobé et de Jephté, de par l'Ajax de Sophocle, de par l'exemple d'Euripide, de par Encius au chapitre 6, constitution de la tragédie, et Scaligère le fils dans ses poésies, enfin de par les canonistes et les jurisconsultes au titre des noces. Les premiers arguments s'adressaient à l'Académie, le dernier allait au cardinal. Après les coups d'épingle, le coup de massue, il fallut un juge pour trancher la question. Chapelain décida Corneille, se vit donc condamné, le lion fut muselé, ou pour dire comme alors, la Corneille fut déplumée. Voici maintenant le côté douloureux de ce drame grotesque. C'est après avoir été ainsi rompu dès son premier jet que ce génie tout moderne, tout nourri du Moyen-Âge et de l'Espagne, forcé de mentir à lui-même et de se jeter dans l'Antiquité, nous donna cette Rome castillane, sublime, sans contredit, mais où, excepté peut-être dans le Nicomède si moqué du dernier siècle pour sa fière et naïve couleur, on ne retrouve ni la Rome véritable, ni le vrai Corneille. Racine éprouva les mêmes dégoûts, sans faire d'ailleurs la même résistance. Il n'avait ni dans le génie, ni dans le caractère, l'âpreté hautaine de Corneille. Il plia en silence et abandonna au dédain de son temps sa ravissante élégie d'Esther, sa magnifique épopée d'Athalie. Aussi on doit croire que s'il n'eût pas été paralysé comme il l'était par les préjugés de son siècle, s'il eût été moins souvent touché par la torpille classique, il n'eût point manqué de jeter Locuste dans son drame entre Narcisse et Néron, et surtout n'eût pas relégué dans la coulisse cette admirable scène du banquet où l'élève de Sénèque empoisonne Britannicus dans la coupe de la réconciliation. Mais peut-on exiger de l'oiseau qu'il vole sous le récipient pneumatique? Que de beauté pourtant nous coûtent les gens de goût depuis Scudéry jusqu'à la harpe. On composerait une bien belle œuvre de tout ce que leur souffle aride a séché dans son germe. Du reste, nos grands poètes ont encore su faire jaillir leur génie à travers toutes ces gênes. C'est souvent en vain qu'on a voulu les murer dans les dogmes et dans les règles. Comme le géant hébreu, ils ont emporté avec eux, sur la montagne, les portes de leur prison. On répète néanmoins, et quelque temps encore, sans doute, on ira répétant. Suivez les règles, imitez les modèles, ce sont les règles qui ont formé les modèles. Un moment. Il y a en ce cas deux espèces de modèles. Ceux qui se sont faits d'après les règles et avant eux, ceux d'après lesquels on a fait les règles. Or, dans laquelle de ces deux catégories, le génie doit-il se chercher une place? Quoiqu'il soit toujours dur d'être en contact avec les pédants, ne vaut-il pas mille fois mieux leur donner des leçons qu'en recevoir d'eux? Et puis imiter, le reflet vaut-il la lumière? Le satellite qui se traîne sans cesse dans le même cercle vaut-il l'astre central et générateur? Avec toute sa poésie, Virgile n'est que la lune d'Homère. Mais voyons, qui imiter? Les anciens? Nous venons de prouver que leur théâtre n'a aucune coïncidence avec le nôtre. D'ailleurs, Voltaire, qui ne veut pas de Shakespeare, ne veut pas des Grecs non plus. Il va nous dire pourquoi. Les Grecs ont hasardé des spectacles non moins révoltants pour nous. Hippolyte, brisé par sa chute, vient compter ses blessures et pousser des cris douloureux. Philoctète tombe dans ses accès de souffrance, un sang noir coule de sa plaie. Édipe, couvert du sang qui dégoûte encore du reste de ses yeux, qu'il vient d'arracher, se plaint des dieux et des hommes. On entend les cris de Clytemnestre, que son propre fils égorge, et Électre crie sur le théâtre « Frappez, ne l'épargnez pas, elle n'a pas épargné notre père !» Prométhée est attaché sur un rocher avec des clous qu'on lui enfonce dans l'estomac et dans les bras. Les furies répondent à l'ombre sanglante de Clytemnestre par des hurlements sans aucune articulation. L'art était dans son enfance du temps d'Eschyle, comme à Londres du temps de Shakespeare. Elle est moderne. Ah, imiter des imitations, grâce. Mais nous objectera-t-on encore à la manière dont vous concevez l'art? Vous paraissez n'attendre que le grand poète, toujours compter sur le génie. L'art ne compte pas sur la médiocrité, il ne lui prescrit rien. Il ne la connaît point, elle n'existe point pour lui. L'art donne des ailes et non des béquilles. Hélas, Daubignac a suivi les règles, Campistron a imité les modèles. Que lui importe, il ne bâtit point son palais pour les fourmis. Il les laisse faire leurs fourmilières, sans savoir si elles viendront appuyer sur sa base cette parodie de son édifice. Les critiques de l'école scolastique placent leurs poètes dans une singulière position. D'une part, ils leur crient sans cesse « Imitez les modèles !» et de l'autre, ils ont coutume de proclamer que « Les modèles sont inimitables. » Or, si leurs ouvriers, à force de labeur, parviennent à faire passer dans ce défilé quelques pâles contre-épreuves, quelques calques décolorés des maîtres, ces ingrats à l'examen du Refacimento nouveau s'écrient tantôt « Cela ne ressemble à rien » ou tantôt « Cela ressemble à tout » et par une analogie et une logique faite exprès, chacun de ces deux formules est une critique. Disons-le donc hardiment. Le temps en est venu et il serait étrange qu'à cette époque la liberté comme la lumière pénétra partout, excepté dans ce qu'il y a de plus nativement libre au monde, les choses de la pensée. Mettons le marteau dans les théories, les poétiques et les systèmes. Jetons bas ce vieux plâtrage qui masque la façade de l'art. Il n'y a ni règles ni modèles. Ou plutôt, il n'y a d'autres règles que les lois générales de la nature qui planent sur l'art tout entier et les lois spéciales qui, pour chaque composition, résulte des conditions d'existence propres à chaque sujet. Les unes sont éternelles, intérieures et restent, les autres variables, extérieures, et ne servent qu'une fois. Les premières sont la charpente qui soutient la maison, les secondes, l'échafaudage qui sert à la bâtir et qu'on refait à chaque édifice. Celles-ci, enfin, sont l'ossement, celles-là le vêtement du drame. Du reste, ces règles-là ne s'écrivent pas dans les poétiques. Richelieu ne s'en doute pas. Le génie, qui devine plutôt qu'il n'apprend, extrait pour chaque ouvrage les premières de l'ordre général des choses, les secondes de l'ensemble isolé du sujet qu'il traite, non pas à la façon du chimiste, qui allume son fourneau, souffle son feu, chauffe son creuset, analyse et détruit, mais à la manière de l'abeille qui vole sur ses ailes d'or, se pose sur chaque fleur et en tire son miel, sans que le calice perde rien de son éclat et la corolle rien de son parfum. Le poète, insistons sur ce point, ne doit donc prendre conseil que de la nature, de la vérité, et de l'inspiration, qui est aussi une vérité et une nature. Quando è di Lope de Vega, quando è di scrivere una commedia, un cielo preceptos con sei slaves. Pour enfermer les précepteurs, en effet, ce n'est pas trop de cycler. Que le poète se garde surtout de copier qui que ce soit, pas plus Shakespeare que Molière, pas plus Schiller que Corneille. Si le vrai talent pouvait abdiquer à ce point sa propre nature et laisser ainsi de côté son originalité personnelle pour se transformer en autrui, il perdrait tout à jouer ce rôle de sosie. C'est le dieu qui se fait valet. Il faut puiser aux sources primitives. C'est la même sève répandue dans le sol qui produit tous les arbres de la forêt, si divers de porcs, de fruits et de feuillages. C'est la même nature qui féconde et nourrit les génies les plus différents. Le vrai poète est un arbre qui peut être battu de tous les vents et abreuvé de toutes les rosées, qui porte ses ouvrages comme ses fruits, comme le fablier portait ses fables. À quoi bon s'attacher à un maître, se greffer sur un modèle? Il vaut mieux encore être ronce ou chardon, nourri de la même terre que le cèdre, le palmier, que d'être le fungus ou le lichen de ces grands arbres. La ronce vit, le fungus végète. D'ailleurs, quelque grand qu'il soit, ce cèdre et ce palmier, ce n'est pas avec le suc qu'on en tire qu'on peut devenir grand soi-même. Le parasite d'un géant sera tout au plus un nain. Le chêne, tout colosse qu'il est, ne peut produire et nourrir que le gui. Qu'on ne s'y méprenne pas. Si quelques-uns de nos poètes ont pu être grands, même en imitant, c'est que tout en se modelant sous la forme antique, ils ont souvent encore écouté la nature et leur génie, c'est qu'ils ont été eux-mêmes par un côté. Leurs rameaux se cramponnaient à l'arbre voisin, mais leurs racines plongeaient dans le sol de l'art. Ils étaient le lierre et non le gui. Puis sont venus les imitateurs en sous-ordre, qui n'ayant ni racine en terre ni génie dans l'âme, ont dû se borner à l'imitation. Comme dit Charles Nodier après l'école d'Athènes, l'école d'Alexandrie. Alors la médiocrité a fait déluge, alors ont pullulé ces poétiques, si gênantes pour le talent, si commodes pour elles. On a dit que tout était fait, on a défendu à Dieu de créer d'autres Molières, d'autres Corneilles. On a mis la mémoire à la place de l'imagination. La chose même a été réglée souverainement. Il y a des aphorismes pour cela. Imaginer, dit l'harpe avec son assurance naïve, ce n'est au fond que se ressouvenir. La nature, donc, la nature est la vérité. Et ici, afin de montrer que, loin de démolir l'art, les idées nouvelles ne veulent que le reconstruire plus solide et mieux fondé, essayons d'indiquer quelle est la limite infranchissable qui, à notre avis, sépare la réalité selon l'art de la réalité selon la nature. Il y a étourderie à les confondre, comme le font quelques partisans peu avancés du romantisme. La vérité de l'art ne saurait jamais être, ainsi que l'ont dit plusieurs, la réalité absolue. L'art ne peut donner la chose même. Supposons en effet l'un de ces promoteurs irréfléchis de la nature absolue, de la nature vue hors de l'art, à la représentation d'une pièce romantique, du Cid par exemple. « Qu'est-ce là ? » dira-t-il au premier mot. « Le Cid parle en vers. Il n'est pas naturel de parler en vers. » « Alors comment voulez-vous donc qu'il parle ? En prose ?» Soit. Un instant après, « Quoi reprendra-t-il s'il est conséquent? Le Cid parle français? Eh bien, mais la nature veut qu'il parle sa langue, il ne peut parler qu'espagnol. Nous n'y comprendrons rien, mais soit encore. Ah, vous croyez que c'est tout, non pas? Avant la 10e phrase castillane, il doit se lever et demander si ce Cid qui parle est le véritable Cid en chair et en os. Mais de quel droit cet acteur, qui s'appelle Pierre ou Jacques, prend-il le nom de Cid? Ah, cela est faux. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'exige pas ensuite qu'on substitue le soleil à cette rampe, des arbres réels, des maisons réelles à ces menteuses coulisses. Car une fois dans cette voie, La logique nous tient au collet et on ne peut plus s'arrêter. On doit donc reconnaître, sous peine de l'absurde, que le domaine de l'art et celui de la nature sont parfaitement distincts. La nature et l'art sont deux choses sans quoi l'une ou l'autre n'existerait pas. L'art, outre sa partie idéale, a une partie terrestre et positive. Quoi qu'il fasse, il est encadré entre la grammaire et la prosodie, entre Vaugelas et Richelet. Il a, pour ses créations les plus capricieuses, des formes, des moyens d'exécution, tout un matériel à remuer. Pour le génie, ce sont des instruments, et pour la médiocrité, des outils. D'autres, ce nous semble, l'ont déjà dit, le drame est un miroir où se réfléchit la nature. Mais si ce miroir est un miroir ordinaire, une surface plane et unie, il ne renverra à des objets qu'une image terne et sans relief, fidèle mais décolorée. On sait ce que la couleur et la lumière perdent dans la réflexion simple. Il faut donc que le drame soit un miroir de concentration, qui, loin de les affaiblir, ramasse et condense les rayons colorants, et qui fasse d'une lumière une flamme. Alors seulement le drame est avoué de l'art. Le théâtre est un point d'optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baguette magique de l'art. L'art feuillette les siècles, feuillette la nature, interroge les chroniques, s'étudie à reproduire la réalité des faits, surtout celle des mœurs et des caractères, bien moins léguée au doute et à la contradiction que les faits. Elle restaure ce que les analystes ont tronqué, harmonise ce qu'ils ont dépouillé, devine leurs omissions et les répare, comble leurs lacunes par des imaginations qui est la couleur du temps, groupe ce qu'ils ont leur laissé épars, rétablit le jeu des fils de la Providence sous les marionnettes humaines et revêt le tout d'une forme poétique et naturelle à la fois, et lui donne cette vie de vérité et de saillie qui enfante l'illusion. Ce prestige de réalité qui passionne le spectateur, et le poète le premier, car le poète est de bonne foi. Ainsi, le but de l'art est presque divin, ressuscité s'il fait de l'histoire, créé s'il fait de la poésie. C'est une grande et belle chose que de voir se déployer avec cette largeur un drame où l'art développe puissamment la nature. Un drame où l'action marche à la conclusion d'une allure ferme et facile, sans diffusion et sans étranglement. Un drame, enfin, où le poète remplisse pleinement le but multiple de l'art, qui est d'ouvrir au spectateur un double horizon, d'illuminer à la fois l'intérieur et l'extérieur des hommes. L'extérieur par leurs discours et leurs actions, l'intérieur par les apartés et les monologues. De croiser en un mot dans le même tableau le drame de la vie et le drame de la conscience. On conçoit que pour une œuvre de ce genre, si le poète doit choisir dans les choses, et il le doit, ce n'est pas le baume mais le caractéristique. Non, qu'il convienne de faire comme on dit aujourd'hui de la couleur locale, c'est-à-dire d'ajouter après coup quelques touches criardes ça et là sur un ensemble du reste parfaitement faux et conventionnel. Ce n'est point à la surface du drame que doit être la couleur locale, mais au fond, dans le cœur même de l'œuvre, d'où elle se répand au dehors d'elle-même, naturellement, également, et pour ainsi parler, dans tous les coins du drame, comme la sève qui monte de la racine à la dernière feuille de l'arbre. Le drame doit être radicalement imprégné de cette couleur des temps. Elle doit en quelque sorte y être dans l'air, de façon qu'on ne s'aperçoive qu'en y entrant et qu'en en sortant qu'on a changé de siècle et d'atmosphère. Il faut quelque étude, quelque labeur pour en venir là. Tant mieux. Il est bon que les avenues de l'art soient obstruées de ces ronces devant lesquelles tout recule, excepté les volontés fortes. C'est d'ailleurs cette étude, soutenue d'une ardente inspiration, qui garantira le drame d'un vice qui le tue, le commun. Le commun est le défaut des poètes à courte vue et à courte haleine. Il faut qu'à cette optique de la scène, toute figure soit ramenée à son trait le plus saillant, le plus individuel, le plus précis. Le vulgaire et le trivial même doit avoir un accent. Rien ne doit être abandonné. Comme Dieu, le vrai poète est présent partout à la fois dans son œuvre. Le génie ressemble au balancier qui imprime l'effigie royale aux pièces de cuivre comme aux écus d'or. Nous n'hésitons pas, et ceci prouverait encore aux hommes de bonne foi combien peu nous cherchons à déformer l'art, nous n'hésitons point à considérer le vers comme un des moyens les plus propres à préserver le drame du fléau que nous venons de signaler, comme une des digues les plus puissantes contre l'irruption du commun qui, ainsi que la démocratie, coule toujours à plein bord dans les esprits. Et ici, que la jeune littérature, déjà riche de tant d'hommes et de tant d'ouvrages, nous permette de lui indiquer une erreur où il nous semble qu'elle est tombée, erreur trop justifiée d'ailleurs, par les incroyables aberrations de la vieille école. Le nouveau siècle est dans cet âge de croissance où l'on peut aisément se redresser. Il s'est formé dans les derniers temps comme une pénultième ramification du vieux tronc classique, ou mieux comme une de ces excroissances, un de ces polypes que développe la décrépitude et qui sont bien plus un signe de décomposition qu'une preuve de vie. Il s'est formé une singulière école de poésie dramatique. Cette école nous semble avoir eu pour maître et pour souche le poète qui marque la transition du XVIIIe siècle au XIXe, l'homme de la description et de la périphrase, ce Delille qui, dit-on vers sa fin, se vantait à la manière des dénombrements d'Homère d'avoir fait 12 chameaux, 4 chiens, 3 chevaux, y compris celui de Job, 6 tigres, 2 chats, un jet d'échecs, un tric-trac, un damier, un billard, plusieurs hivers, beaucoup d'été, force printemps, 50 couchers de soleil et tant d'aurores qui se perdaient à les compter. Or, Delille a passé dans la tragédie. Il est le père, lui et non Racine, grand Dieu, d'une prétendue école d'élégance et de bon goût qui a fleuri récemment. La tragédie n'est pas pour cette école ce qu'est pour le bonhomme Gilles Shakespeare, par exemple une source d'émotion de toute nature, mais un cadre commode à la solution d'une foule de petits problèmes descriptifs qu'elle se propose chemin faisant. Cette muse, loin de repousser, comme la véritable école classique française, les trivialités et les bassesses de la vie, les recherche au contraire et les ramasse avidement. Le grotesque, évité comme mauvaise compagnie par la tragédie de Louis XIV, ne peut passer tranquille devant celle-ci. Il faut qu'il soit décrit, c'est-à-dire anobli. Une scène de corps de garde, une révolte de populace, le marché aux poissons, le bagne, le cabaret, la poule au pot de Henri IV, sont une bonne fortune pour elle. Elle s'en saisit, elle débarbouille cette canaille, écoute à ses vilainies, son clinquant et ses paillettes. Pourpourreus a suitur pannus. Son but paraît être de délivrer les lettres de noblesse à toute cette roture du drame, et chacune de ces lettres du grand sel est une tirade. Cette muse, on le conçoit, est d'une béguellerie rare. Accoutumée qu'elle est aux caresses de la périphrase, le mot propre, qui la rudoierait quelquefois, lui fait horreur. Il n'est point de sa dignité de parler naturellement. Elle souligne le vieux Corneille pour ses façons de dire crûment. Un tas d'hommes perdus de dettes et de crimes, Chimène qui l'eût cru, Rodrigue qui l'eût dit. Quand leur Flaminius marchandait Hannibal, « Ah, ne me brouillez pas avec la République, etc., etc. » Elle a encore sur le cœur son « tout beau, monsieur ». Et il a fallu bien des seigneurs et bien des madames pour faire pardonner à notre admirable Racine ces chiens si monosyllabiques et ce Claude si brutalement mis dans le lit d'Agrippine. Cette Mélpomène, comme elle s'appelle, frémirait de toucher une chronique. Elle laisse au costumier le soin de savoir à quelle époque se passent les drames qu'elle fait. L'histoire à ses yeux est de mauvais ton et de mauvais goût. Comment, par exemple, tolérer les rois et les reines qui jurent? Il faut les élever de leur dignité royale à la dignité tragique. C'est dans une promotion de ce genre qu'elle a anobli Henri IV. C'est ainsi que le roi du peuple, nettoyé par M. Le Gouvet, a vu son ventre saint-gris chassé honteusement de sa bouche par deux sentences et qu'il a été réduit, comme la jeune fille du Fabliau, à ne plus laisser tomber de cette bouche royale que des perles, des rubis et des saphirs. Le tout faux, à la vérité. En somme, rien n'est si commun que cette élégance et cette noblesse de convention. Rien de trouvé, rien d'imaginé, rien d'inventé dans ce style. Ce qu'on a vu partout, rhétorique, ampoule, lieu commun, fleur de collège, poésie de vers latin, des idées d'emprunt vêtues une image de pacotille. Les poètes de cette école sont élégants à la manière des princes et princesses de théâtre, toujours sûrs de trouver dans les cases étiquetées du magasin manteau et couronne de similor, qui n'ont que le malheur d'avoir servi à tout le monde. Si ces poètes ne feuilletent pas la Bible, ce n'est pas qu'ils n'aient aussi leur gros livre, leur dictionnaire de rimes. C'est là leur source de poésie, Fontes Aquarum. On comprend que dans tout cela, la nature et la vérité deviennent ce qu'elles peuvent. Ce serait grand hasard qu'il en surnageât quelques débris dans ce cataclysme de faux arts, de faux styles, de fausses poésies. Voilà ce qui a causé l'erreur de plusieurs de nos réformateurs distingués. Choqués de la roideur, de l'apparat, du pomposo de cette prétendue poésie dramatique, ils ont cru que les éléments de notre langage poétique étaient incompatibles avec le naturel et le vrai. L'Alexandrin les avait tant de fois ennuyés qu'ils l'ont condamné, en quelque sorte, sans vouloir l'entendre, et ont conclu un peu précipitamment, peut-être, que le drame devait être écrit en prose. Ils se méprenaient. Si le faux règne, en effet, dans le style, comme dans la conduite de certaines tragédies françaises, ce n'était pas au vers qu'il fallait s'en prendre, mais au versificateur. Il fallait condamner non la forme employée, mais ceux qui avaient employé cette forme, les ouvriers, non les outils. Pour se convaincre du peu d'obstacles que la nature de notre poésie oppose à la libre expression de tout ce qui est vrai, ce n'est peut-être pas dans Racine qu'il faut étudier notre vers, mais souvent dans Corneille et toujours dans Molière. Racine, divin poète, est élégiaque, lyrique, épique, Molière est dramatique. Il est temps de faire justice des critiques entassées par le mauvais goût du dernier siècle sur ce style admirable et de dire hautement que Molière occupe la sommité de notre drame non seulement comme poète, mais encore comme écrivain. Palmas ou Erebet istéduas. Chez lui, le vers embrasse l'idée, s'y incorpore étroitement, la resserre et la développe, tout à la fois, et lui prête une figure plus svelte, plus stricte, plus complète, et nous la donne en quelque sorte en élixir. Le vers est la forme optique de la pensée. Voilà pourquoi il convient surtout à la perspective scénique. Fait d'une certaine façon, il communique son relief à des choses qui, sans lui, passeraient insignifiantes et vulgaires. Il rend plus solide et plus fin le tissu du style. C'est le nœud qui arrête le fil. C'est la ceinture qui soutient le vêtement et lui donne tous ses plis. Que pourrait donc perdre à entrer dans le vers la nature et le vrai ? Nous le demandons à nos prosaïstes eux-mêmes. Que perdent-ils à la poésie de Molière ? Le vin qu'on nous permette une trivialité de plus, celle d'être du vin pour être en bouteille ? que si nous avions le droit de dire quel pourrait être à notre gré le style du drame. Nous voudrions un vers libre, franc, royal, osant tout dire sans pruderie, tout exprimer sans recherche, passant d'une naturelle allure de la comédie à la tragédie, du sublime au grotesque. Tour à tour positif et poétique, tout ensemble artiste et inspiré, profond et soudain, large et vrai. Sachant briser à propos et déplacer la césure pour déguiser sa monotonie d'alexandrin. Plus ami de l'enjambement qui l'allonge que de l'inversion qui l'embrouille. Fidèle à la rime, cette esclave reine, cette suprême grâce de notre poésie, ce générateur de notre maître. Inépuisable dans la variété de ses tours, insaisissable dans ses secrets d'élégance et de facture, prenant comme Protée mille formes sans changer le type de caractère, fuyant la tirade, se jouant dans le dialogue, se cachant toujours derrière le personnage, s'occupant avant tout d'être à sa place, et lorsqu'il lui adviendrait d'être beau, n'étant beau en quelque sorte que par hasard, malgré lui et sans le savoir. Lyrique, épique, dramatique, selon le besoin, pouvant parcourir toute la gamme poétique, aller de haut en bas, des idées les plus élevées aux plus vulgaires, des plus bouffonnes aux plus graves, des plus extérieures aux plus abstraites, sans jamais sortir des limites d'une scène parlée, en un mot tel que le ferait l'homme qu'une fée aurait doué de l'âme de Corneille et de la tête de Molière. Il nous semble que ce vers-là serait bien aussi beau que de la prose. Il n'y aurait aucun rapport entre une poésie de ce genre et celle dont nous faisions tout à l'heure l'autopsie cadavérique. La nuance qui les sépare sera facile à indiquer si un homme d'esprit auquel l'auteur de ce livre doit un remerciement personnel nous permet de lui en emprunter la piquante distinction. L'autre poésie était descriptive, celle-ci serait pittoresque. Répétons-le surtout, le vers au théâtre doit dépouiller tout amour-propre, toute exigence, toute coquetterie. Il n'est là qu'une forme, et une forme qui doit tout admettre, qui n'a rien à imposer au drame, et au contraire doit tout recevoir de lui pour tout transmettre au spectateur. Français, latin, texte de loi, jurons royaux, locutions populaires, comédie, tragédie, rire, larmes, prose et poésie. Malheur au poète si son vers fait la fine bouche. Mais cette forme est une forme de bronze qui encadre la pensée dans son maître, sous laquelle le drame est indestructible, qui le grave plus avant dans l'esprit de l'acteur, avertit celui-ci de ce qu'il omet, de ce qu'il ajoute, l'empêche d'altérer son rôle, de se substituer à l'auteur, rend chaque mot sacré, et fait que ce qu'a dit le poète se retrouve longtemps après encore debout dans la mémoire de l'auditeur. L'idée trempée dans le vers prend soudain quelque chose de plus incisif et de plus éclatant. C'est le fer qui devient acier. Pour sans que la prose, nécessairement bien plus timide, obligée de sevrer le drame de toute poésie lyrique ou épique, réduite au dialogue et au positif, est loin d'avoir ses ressources. Elle a les ailes bien moins larges. Elle est ensuite d'un beaucoup plus facile accès. La médiocrité y est à l'aise. Et pour quelques ouvrages distingués, comme ceux que ces derniers temps ont vu paraître, l'art serait bien vite encombré d'avortons et d'embryons. Une autre fraction de la réforme inclinerait pour le drame écrit en vers et en prose tout à la fois, comme a fait Shakespeare. Cette manière a ses avantages. Il pourrait cependant y avoir disparate dans les transitions d'une forme à l'autre, et quand un tissu est homogène, il est bien plus solide. Au reste, que le drame soit écrit en prose, qu'il soit écrit en vers, qu'il soit écrit en vers et en prose, ce n'est là qu'une question secondaire. Le rang d'un ouvrage doit se fixer non d'après sa forme, mais d'après sa valeur intrinsèque. Dans des questions de ce genre, il n'y a qu'une solution, il n'y a qu'un poids, qui puisse faire pencher la balance de l'art, c'est le génie. Au demeurant, prosateur ou versificateur, le premier, l'indispensable mérite d'un écrivain dramatique, c'est la correction. Non cette correction toute de surface, qualité ou défaut de l'école descriptive qui fait de Lomont et de Resto les deux ailes de son Bécasse. Non, mais cette correction intime, profonde, raisonnée, qui s'est pénétrée du génie d'un idiome, qui en a sondé les racines, fouillé les étymologies, toujours sûre parce qu'elle est sûre de son fait et qu'elle va toujours d'accord avec la logique de la langue. Notre-Dame, la grammaire, mène l'autre aux lisières. Celle-ci tient en laisse la grammaire. Elle peut oser, hasarder, créer, inventer son style, elle en a le droit. Car bien qu'en aient dit certains hommes qui n'avaient pas songé à ce qu'ils disaient, et parmi lesquels il faut ranger notamment celui qui écrit ses lignes, la langue française n'est pas fixée et ne se fixera point. Une langue ne se fixe pas. L'esprit humain est toujours en marche, ou si l'on veut, en mouvement, et les langues avec lui. Les choses sont ainsi. Quand le corps change, comment l'habit ne changerait-il pas? Le français du XIXe siècle ne peut pas plus être le français du XVIIIe que celui-ci n'est le français du XVIIe et que le français du XVIIe n'est celui du XVIe. La langue de Montaigne n'est plus celle de Rabelais, la langue de Pascal n'est plus celle de Montaigne. La langue de Montesquieu n'est plus celle de Pascal. Chacune de ces quatre langues prises en soi est admirable parce qu'elle est originale. Toute époque a ses idées propres, il faut qu'elle ait aussi les mots propres à ses idées. Les langues sont comme la mer, elles oscillent sans cesse. À certains temps, elles quittent un rivage du monde de la pensée et en envahissent un autre. Tout ce que leurs flots désertent ainsi sèche et s'efface du sol. C'est de cette façon que des idées s'éteignent et que des mots s'en vont. Il en est des idiomes humains comme de tout. Chaque siècle lui apporte et en emporte quelque chose. Qu'y faire? Cela est fatal. C'est donc en vain que l'on voudrait pétrifier la mobile physionomie de notre idiome sous une forme donnée. C'est en vain que nos Josué littéraires crient à la langue de s'arrêter. Les langues ni le soleil ne s'arrêtent plus. Le jour où elles se fixent, c'est qu'elles meurent. Voilà pourquoi le français de certaines écoles contemporaines est une langue morte. Tels sont à peu près, moins les développements approfondis qui en pourraient compléter l'évidence, les idées actuelles de l'auteur de ce livre sur le drame. Il est loin du reste d'avoir la prétention de donner son essai dramatique comme une émanation de ses idées, qui, bien au contraire, ne sont peut-être elles-mêmes à parler naïvement que des révélations de l'exécution. Il lui serait fort commode, sans doute, et plus adroit, d'asseoir son livre sur sa préface et de les défendre l'un par l'autre. Il aime mieux, moins d'habileté, plus de franchise. Il veut donc être le premier à montrer la ténuité du nœud que lie cet avant-propos à ce drame. Son premier projet, bien arrêté d'abord par sa paresse, était de donner l'œuvre toute seule au public. « El demonio sin las cuernas », comme disait Hiriart. C'est après l'avoir dûment close et terminée qu'à la sollicitation de quelques amis, probablement bien aveuglés, il s'est déterminé à compter avec lui-même dans une préface, à tracer, pour ainsi parler, la carte du voyage poétique qu'il venait de faire, à se rendre raison des acquisitions bonnes ou mauvaises qu'il en rapportait et des nouveaux aspects sur lesquels le domaine de l'art s'était offert à son esprit. On prendra sans doute avantage de cet aveu pour répéter le reproche qu'un critique d'Allemagne lui a déjà adressé de faire une poétique pour sa poésie. Qu'importe. Il a d'abord eu bien plutôt l'intention de défaire que de faire des poétiques. Ensuite, ne vaudrait-il pas toujours mieux faire des poétiques d'après une poésie que de la poésie d'après une poétique? Mais non, encore une fois, il n'a ni le talent de créer, ni la prétention d'établir des systèmes. Bon, les systèmes, dit spirituellement Voltaire, sont comme des rats qui passent par 20 trous et en trouvent enfin 2 ou 3 qui ne peuvent les admettre. C'eût donc été prendre une peine inutile et au-dessus de ses forces. Ce qu'il a plaidé, au contraire, c'est la liberté de l'art contre le despotisme des systèmes, des codes et des règles. Il a pour habitude de suivre à tout hasard ce qu'il prend pour son inspiration et de changer de moule autant de fois que de composition. Le dogmatisme dans les arts est ce qu'il fuit avant tout. À Dieu ne plaise qu'il aspire à être de ces hommes, romantiques ou classiques, qui font des ouvrages dans leur système, qui se condamnent à n'avoir jamais qu'une forme dans l'esprit, à toujours prouver quelque chose, suivre d'autres lois que celles de leur organisation et de leur nature. L'œuvre artificielle de ces hommes-là, quelque talent qu'ils aient d'ailleurs, n'existe pas pour l'art. C'est une théorie, non une poésie. Après avoir, dans tout ce qui précède, essayé d'indiquer quelle a été, selon nous, l'origine du drame, quel est son caractère, quel pourrait être son style, voici le moment de redescendre de ces sommités générales de l'art au cas particulier qui nous y a fait monter. Il nous reste à entretenir le lecteur de notre ouvrage, de ce Cromwell. Et comme ce n'est pas un sujet qui nous plaise, nous en dirons peu de choses en peu de mots. Victor Hugo analyse ensuite les personnages de son Cromwell. Les considérations qu'il fait sont de peu d'intérêt si on ignore la pièce. Il indique ensuite que la représentation de son Cromwell durerait de longues heures. Puis il reprend. Espérons qu'on ne tardera pas à s'habituer en France à consacrer toute une soirée à une seule pièce. Il y a en Angleterre et en Allemagne des drames qui durent 6 heures. Les Grecs dont nous parle tant, les Grecs et, à la façon de Scudéry, nous invoquons ici le classique d'Acier, chapitre 7 de sa poétique, les Grecs allaient parfois jusqu'à se faire représenter 12 ou 16 pièces par jour. Chez un peuple ami des spectacles, l'attention est plus vivace qu'on le croit. Le mariage de Figaro, ce nœud de la grande trilogie de Beaumarchais, remplit toute la soirée, et qui a-t-il jamais ennuyé ou fatigué? Beaumarchais était digne de hasarder le premier pas vers ce but de l'art moderne, auquel il est impossible de faire avec 2 heures germer ce profond, cet invincible intérêt qui résulte d'une action vaste, vraie et uniforme. Mais, dit-on, ce spectacle, composé d'une seule pièce, serait monotone et paraîtrait long. Erreur ! Il perdrait au contraire sa longueur et sa monotonie actuelle. Que fait-on en effet maintenant ? On divise les jouissances du spectateur en 2 parts bien tranchées. On lui donne d'abord 2 heures de plaisir sérieux, puis 1 heure de plaisir folâtre. Avec l'heure d'entracte que nous ne comptons pas dans le plaisir, en tout 4 heures. Et que ferait le drame romantique ? Il broierait, mêlerait artistement ces 2 espèces de plaisir. Il ferait passer à chaque instant l'auditoire du sérieux au rire, des excitations bouffonnes aux émotions déchirantes, du grave au doux, du plaisant au sévère. Car, ainsi que nous l'avons déjà établi, le drame, c'est le grotesque avec le sublime, l'âme sous le corps. C'est une tragédie sous une comédie. Ne voit-on pas que, vous reposant ainsi d'une impression par une autre, aiguisant tour à tour le tragique sur le comique, le gai sur le terrible, s'associant même aux besoins les fascinations de l'opéra, ces représentations, tout en offrant qu'une pièce, en vaudraient bien d'autres. La scène romantique ferait un mets piquant, varié, savoureux, de ce qui, sur le théâtre classique, est une médecine divisée en deux pilules. Voici que l'auteur de ce livre a bientôt épuisé ce qu'il avait à dire au lecteur. Il ignore comment la critique accueillera, et ce drame, et ses idées sommaires, dégarnis de leur corollaire, appauvris de leurs ramifications, ramassés en courant et dans la hâte d'en finir. Sans doute elles paraîtront aux disciples de la harpe bien effrontées et bien étranges. Mais si par aventure, toutes nues et toutes amoindries qu'elles sont, elles pouvaient contribuer à mettre sur la route du vrai ce public dont l'éducation est déjà si avancée et que tant de remarquables écrits, de critiques ou d'applications, livres ou journaux ont déjà mûri pour l'art, qu'ils suivent cette impulsion sans s'occuper si elle lui vient d'un homme ignoré, d'une voix sans autorité, d'un ouvrage de peu de valeur. C'est une cloche de cuivre qui appelle les populations au vrai temple et au vrai Dieu. Il y a aujourd'hui l'ancien régime littéraire comme l'ancien régime politique. Le dernier siècle pèse encore presque de tout point sur le nouveau. Il l'opprime notamment dans la critique. Vous trouvez par exemple des hommes vivants qui vous répètent cette définition du goût échappé à Voltaire. Le goût n'est autre chose pour la poésie que ce qu'il est pour les ajustements des femmes. Ainsi le goût, c'est la coquetterie. Paroles remarquables qui peignent à merveille cette poésie fardée, mouchetée, poudrée du XVIIIe siècle, cette littérature à paniers, à pompons et à falbala. Elles offrent un admirable résumé d'une époque avec laquelle les plus hauts génies n'ont pu être en contact sans devenir petits, du moins par un côté, d'un temps où Montesquieu a pu et dû faire le temple de Cnide, Voltaire le temple du goût, et Jean-Jacques le devin du village. Le goût, c'est la raison du génie. Voilà ce qu'établira bientôt une autre critique, une critique forte, franche, savante, une critique du siècle qui commence à pousser les jets vigoureux sous les vieilles branches desséchées de l'ancienne école. Cette jeune critique, aussi grave que l'autre est frivole, aussi érudite que l'autre est ignorante, s'est déjà créée des organes écoutés, et l'on est quelquefois surpris de trouver dans les feuilles les plus légères d'excellents articles émanés d'elle. C'est elle qui, s'unissant à tout ce qu'il y a de supérieur et de courageux dans les lettres, nous délivrera de deux fléaux, le classicisme caduc et le faux romantisme qui ose poindre au pied du vrai. Car le génie moderne a déjà son ombre, sa contre-épreuve, son parasite, son classique, qui se grime sur lui, se verdit de ses couleurs, prend sa livrée, ramasse ses miettes, et, semblable à l'élève du sorcier, met en jeu avec des mots retenus de mémoire des éléments d'action dont il n'a pas le secret. Aussi fait-il des sottises que son maître a maintes fois beaucoup de peine à réparer. Mais ce qu'il faut détruire avant tout, c'est le vieux faux goût. Il faut en dérouiller la littérature actuelle. C'est en vain qu'il la ronge et la ternit. Il parle à une génération jeune, sévère, puissante, qui ne le comprend pas. La queue du XVIIIe siècle traîne encore dans le XIXe. Mais ce n'est pas nous, jeunes hommes, qui avons vu Bonaparte, qui la lui porterons. Nous touchons donc au moment de voir la critique nouvelle prévaloir, assise elle aussi sur une base large, solide et profonde. On comprendra bientôt, généralement, que les écrivains doivent être jugés, non d'après les règles et les genres, choses qui sont hors de la nature et hors de l'art, mais d'après les principes immuables de cet art et les lois spéciales de leur organisation personnelle. La raison de tout sera honte de cette critique qui a roué vif Pierre Corneille, bâillonné Jean Racine, et qui n'a visiblement réhabilité John Milton qu'en vertu du code épique du père Le Bossu. On consentira, pour se rendre compte d'un ouvrage, à se placer au point de vue de l'auteur, à regarder le sujet avec ses yeux. On quittera Et c'est M. de Chateaubriand qui parle ici, la critique mesquine des défauts pour la grande et féconde critique des beautés. Il est temps que tous les bons esprits saisissent le fil qui lie fréquemment ce que, selon notre caprice particulier, nous appelons défaut à ce que nous appelons beauté. Les défauts, enfin du moins ce que nous nommons ainsi, sont souvent la condition native, nécessaire, fatale des qualités. Scit genius natale comes qui temperata strum. Où voit-on la médaille qui n'a son revers? Talent qui n'apporte son ombre avec sa lumière, sa fumée avec sa flamme. Telle tâche peut n'être que la conséquence indivisible de telle beauté. Cette touche heurtée, qui me choque de près, complète l'effet et donne la saillie à l'ensemble. Effacez l'une, vous effacez l'autre. L'originalité se compose de tout cela. Le génie est nécessairement inégal. Il n'est pas de haute montagne sans profond précipice. Comblez la vallée avec le mont, vous n'aurez plus qu'une steppe, une lande, la plaine des sablons au lieu des Alpes, et des alouettes et non des aigles. Il faut aussi faire la part du temps, du climat, des influences locales. La Bible, Homère, nous blessent quelquefois par leur sublimité même. Qui voudrait en retrancher un mot? Notre infirmité s'effarouche souvent des hardiesses inspirées du génie, faute de pouvoir s'abattre sur les objets avec une aussi vaste intelligence. Et puis encore une fois, il y a de ces fautes qui ne prennent racine que dans les chefs-d'œuvre. Il n'est donné qu'à certains génies d'avoir certains défauts. On reproche à Shakespeare l'abus de la métaphysique, l'abus de l'esprit, des scènes parasites, des obscénités, l'emploi des friperies mythologiques de mode dans son temps, de l'extravagance, de l'obscurité, du mauvais goût, de l'enflure, des aspérités de style. Le chêne, cet arbre géant que nous comparions tout à l'heure à Shakespeare et qui a plus d'une analogie avec lui, le chêne a le port bizarre, les rameaux noueux, le feuillage sombre, l'écorce âpre et rude, mais il est le chêne. Et c'est à cause de cela qu'il est le chêne. Que si vous voulez une tige lisse, des branches droites, des feuilles de satin, adressez-vous au pâle-bouleau, au sureau-creux, au saule-pleureur. Mais laissez en paix le grand chêne, ne lapidez pas qui vous ombrage. L'auteur de ce livre connaît autant que personne les nombreux et grossiers défauts de ses ouvrages. S'il lui arrive trop rarement de les corriger, c'est qu'il répugne à revenir après coup sur une chose faite. Il ignore, cet art de souder une beauté à la place d'une tâche. Il n'a jamais pu rappeler l'inspiration sur une œuvre refroidie. Qu'a-t-il fait d'ailleurs qui vaille cette peine? Le travail qu'il perdrait à effacer les imperfections de ses livres, il est mieux l'employer à dépouiller son esprit de ses défauts. C'est sa méthode de ne corriger un ouvrage que dans un autre ouvrage. Au demeurant, de quelque façon que son livre soit traité, il prend ici l'engagement de ne le défendre ni en tout ni en partie. Si son drame est mauvais, que sert de le soutenir? S'il est bon, pourquoi le défendre? Le temps fera justice du livre ou la lui rendra. Le succès du moment n'est que l'affaire du libraire. Si donc la colère de la critique s'éveille à la publication de cet essai, il le laissera faire. Que lui répondrait-il? Il n'est pas de ceux qui parlent, ainsi que le dit le poète castillan, par la bouche de leurs blessures, por la boca de su herida. Un dernier mot. On a pu remarquer que dans cette course un peu longue, à travers tant de questions diverses, l'auteur s'est généralement abstenu d'étayer son opinion personnelle sur des textes, des citations, des autorités. Ce n'est pas cependant qu'elles lui eussent fait faute. Si le poète établit des choses impossibles selon les règles de son art, il commet une faute sans contredit. Mais elle cesse d'être faute lorsque, par ce moyen, il arrive à la fin qu'il s'est proposée, car il a trouvé ce qu'il cherchait. Ils prennent pour galimatia tout ce que la faiblesse de leur lumière ne leur permet pas de comprendre. Ils traitent surtout de ridicule ces endroits merveilleux où le poète, afin de mieux entrer dans la raison, sort, s'il faut ainsi parler, de la raison même. Ce précepte, effectivement, qui donne pour règle de ne point garder quelquefois de règle, est un mystère de l'art qui n'est pas aisé de faire entendre des hommes sans aucun goût, et qu'une espèce de bizarrerie d'esprit rend insensible à ce qui frappe ordinairement les hommes. Qui dit cela? C'est Aristote. Et qui dit ceci? C'est Boileau. On voit, à ce seul échantillon, que l'auteur de ce drame aurait pu, comme un autre, se cuirasser de nom propre et se réfugier derrière des réputations. Mais il a voulu laisser ce mode d'argumentation à ceux qui le croient invincible, universel et souverain. Quant à lui, il préfère des raisons à des autorités. Il a toujours mieux aimé des armes que des armoiries. Octobre 1827.